On va prendre la page 259, le Chumash, sur la paracha de Tzav. Donc, je vais vous montrer le pasouk directement et on va commenter sur le pasouk et Rashi. Dans la paracha de cette semaine, on va prendre le pasouk Gimel. Le pasouk Gimel, on nous dit là-bas, on nous raconte comment s'est passé le service du matin. Première chose que le Kohen y faisait quand il arrivait le matin, il devait faire ce qu'on appelle Trumat Adeshen. Trumat Adeshen, c'est-à-dire que sur l'autel, sur laquelle on avait fait les sacrifices la veille. D'accord ? Il y a, naturellement, s'il y a eu des sacrifices qui ont brûlé, donc il y a de la cendre. Cette cendre formait une sorte de... On appelait ça une pomme. D'accord ? Et donc, le matin, un des services qui amenait le plus de bracha et un des services que les Kohanim presque se battaient pour le faire, à tel point qu'après, par la suite, il y a eu des dégâts une fois même, et une fois, par la suite, les Chachamim ont instauré un tirage au sort, c'était la Trumat Adeshen. C'est quoi la Trumat Adeshen ? Trumat Adeshen, ça veut dire qu'il y avait un Kohen qui était tiré au sort. Et la première chose qu'on faisait le matin, c'était on devait donc prélever, on devait enlever cette cendre-là et l'amener en dehors du camp. Donc on a l'impression que c'est un simple nettoyage. Donc on va lire le pasouk Gimel et on va voir ce que Rashi dit. Donc, Velavash HaKohen Midovad ou Mirnesevad Ilbash Abessaro. Le matin, le Kohen, quand il se lève, donc il s'habille avec un vêtement, un vêtement qui était en lin. Ou Mirnesseva Dilbash Albessaro, donc le vêtement du haut est en lin, le vêtement du bas est également en lin. Donc c'est un style de pantalon, c'est un pantacourt. Veheri met hadeshen, asher tochal haesh, et haola al hamizbeach. Donc le Kohen, ce Kohen donc préposé, celui qui a gagné, enfin à l'époque il n'y avait pas de tirage au sort, celui qui allait le faire, il devait prélever la cendre, avec la cendre qui est issue du feu qui a consumé le sacrifice de Ola, d'accord ? Donc, mais pas seulement le sacrifice de Ola, qui a consumé les sacrifices à la Misbéar sur l'autel. Vesamo et c'est la Misbéar. D'accord ? Donc il va rassembler cette cendre, puisque bien sûr on ne s'attend pas à ce que ça brûle pile de manière symétrique, donc il va rassembler cette cendre, et il va la centraliser et c'est la Misbéar à côté de l'autel. Bon, ça c'est simple. Pasuk Dalet. Ufashat et Begadav, Velavash Begadim Acherim. Donc ça, le Kohen, il avait des outils de service. Il avait une pelle, il avait tout ce qu'il faut, il avait une pelle, une fourche, enfin tout ce qu'il faut pour faire ça sans vraiment se salir. Ensuite, Ufashat et Begadav, Velavash Begadim Acherim. Le Kohen enlève ses vêtements, donc les vêtements qu'il portait, et il mettra d'autres vêtements. D'accord ? Ah, il n'est pas encore sale. On va voir dans Rashi tout de suite. Veoti et Hadeshen, Asher Tochal Haesh, Veoti et Hadeshen, pardon, El Michus Samachadel Makobtar. Donc cette cendre qu'il a ramassée, qu'il a centralisée, il va prendre toute la cendre, donc il y avait beaucoup de cendre, parce qu'il y avait beaucoup de sacrifices, et il va la sortir en dehors du camp, El Makobtar, dans un endroit qui est pur. Donc on va prendre un endroit où il est pur, où il n'y a pas de cadavre, où il n'y a rien du tout. Donc on va centraliser, parce que c'est même la cendre et une certaine Kedusha. Alors on va voir ce qu'il dit Rashi. On prend Rashi Dalet, vous prenez, c'est la troisième ligne de la deuxième colonne. Troisième ligne de la deuxième colonne. Je vais lire quelques lignes de Rashi et après on va essayer de commenter dessus. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Il dit, Ufashet et Begadav, Enzo Chova. Rashi nous dit la chose suivante, il dit que quand on dit que Ufashet et Begadav, qu'on a l'obligation d'enlever, le Kohen avait l'obligation donc d'enlever ses vêtements pour prendre cette cendre et l'amener en dehors du camp. Rashi nous dit Enzo Chova, ce n'est pas une obligation. D'accord ? Le Kohen, s'il veut, il enlève ses vêtements, s'il veut, il garde les mêmes vêtements. Alors pourquoi la Torah nous demande d'enlever les vêtements ? Et là seulement Derech Eretz. Derech Eretz, c'est des bonnes manières. Chez Lo Yelachler, Beotzat Adeshen, pour pas qu'il salisse en déplaçant la cendre, parce que tant qu'il est encore dans l'enceinte de l'hôtel, on va dire que bon, il a les outils qu'il faut, il peut le faire sans se salir. Mais quand il va trimballer de la cendre, là vraiment, il se salira. Donc qu'est-ce qu'il dit Rashi ? Shelo yelachler beotzat adeshen, pour pas qu'il salisse en amenant la cendre à l'extérieur du Beth Amikdash ou du Mishkan, pour pas qu'il salisse begadim shehu meshamesh ba'em tamim. Pour pas qu'il salisse les vêtements de service avec lesquels il sert à Kadosh Baruch Hu toute la journée. Donc c'est une première raison que Rashi lui donne. C'est quoi la première raison ? c'est une raison technique. Hachem lui dit, écoute, c'est très simple, je t'explique pourquoi il change de vêtements. En vérité, il n'est pas obligé, mais c'est bonne manière. Si, sinon, parce si, c'est d'accord, non, c'est pas sali encore. Il veut
Attends, il change de vêtements pour.
Il change de vêtements pour. Non, il change de vêtements pour amener la cendre en dehors du camp.
Oui, donc ça le sous-entend.
Il n'est pas encore sale. Voilà, il va se salir.
C'est sûr.
D'accord.
Ouais.
Mais il n'est pas encore sale parce qu'ils avaient des grandes pelles, etc., tout ce qu'il faut, de manière à ne pas se salir.
Ça, ça vole, non. Hein, la poudre.
Il n'était pas sale.
Bon. Moi, avec mon, quand j'en vais cendrier de la c'est voiture.
C'est pour ça qu'on dit ici que ou fachat et begadav.
Alors imagine.
Velavage begadim acherim. C'est pour ça qu'on dit ici clairement que à quel moment il enlève ses vêtements. Il enlève ses vêtements lorsqu'il s'apprête à faire sortir la cendre du camp. Ça, c'est une première raison que Rashi nous donne. Rashi nous donne un machal, un exemple. Rashi nous donne un exemple, et qui, a priori, cet exemple-là, va former une deuxième raison. Et on va tourner autour de cet exemple-là. Rashi dit, « Begadim, des vêtements, chez Bichel, Bahem, Dera, les rabots. » Les vêtements avec lesquels on a cuit Gdera, donc une marmite, les rabots à son maître. Alimzog Bahen Kos les rabots. Même si, dit Rachid dit comme ça, il dit, même si le serviteur est en cuisine, et c'est lui qui a préparé le plat pour son maître, mais le vêtement avec lequel on a préparé la marmite, donc le vêtement de la cuisine, c'est pas le même vêtement. Alimzog Bahen Kos les rabots. D'accord? C'est pas le même vêtement avec lequel je vais servir un verre à mon maître. C'est-à-dire, même si je l'ai fait pour mon maître, et si j'étais en cuisine, c'est parce que mon maître l'a demandé, mais le serviteur, l'esclave, ne va pas être en cuisine avec les mêmes vêtements qu'il va être lorsqu'il sert son maître.
Le cuisinier, maître d'hôtel, c'est pas d'accord pareil.
Donc, l'écart, c'est pour ça. Vélavage begadim acherim, c'est pour ça que la Torah nous demande de mettre des autres vêtements, proutim mehen, donc d'autres vêtements qui seront moins importants. Donc, des vêtements de service pour des vêtements qui sont peut-être déjà sales, d'accord, pour amener la cendre en dehors du camp. Donc, Rashi nous donne ici deux raisons. Bien qu'on a l'impression que c'est une seule raison, mais Rachid nous donne ici deux raisons. C'est quoi les deux raisons que Rachid donne? Première raison, il dit, c'est une raison technique, tout simplement pour ne pas se salir. Pourquoi on change de vêtements? Pour ne pas se salir. C'est une règle de bienséance, c'est une règle, de bonne conduite. Deuxième raison Rachid nous donne, il nous dit, les vêtements avec lesquels on a préparé, les vêtements avec lesquels on a préparé une marmite pour mon maître, c'est pas les mêmes vêtements avec lesquels je vais le servir. Qu'est-ce qu'il veut nous dire Rachid ici? Vous allez voir que Rachid a beaucoup de choses à nous apprendre. Rachid ici vient répondre à une question qui saute aux yeux. C'est quoi la question? Dans le Beth Amikdash, et donc on va aller dans la même direction que la question de M. Bismuth, dans le Beth Amikdash, vous allez voir comment on va arriver au ménage de Pessah. Dans le Beth Amikdash, il y avait beaucoup de travaux, il y avait beaucoup de services avec lesquels on pouvait très facilement se salir. Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête?
Amener le bois.
Très bien. Un exemple, donnez-moi des exemples. On va prendre le process. D'accord. On amène un animal au Beth Amikdash. Est-ce que c'est salissant? Pas forcément.
Il peut être, lui, il va salir.
Qu'est-ce qu'on va faire avec cet animal? On va faire la shrita.
Ouais.
Ah, la shrita. Il y a déjà du sang. D'accord. Il y a un autre Kohen qui était préposé pour réceptionner le sang, le premier sang qui sort de l'animal, pour le verser. D'accord. Pour le verser sur l'autel. Vous avez déjà été au Kaparot? Vous savez à quelle vitesse le sang gicle? D'accord? C'est sûr que ça gicle. C'est évident que ça gicle. Bon. Ensuite, ce sang, on le prend à une vitesse foudroyante, parce que sinon il risque de coaguler, il faut aller très très vite. On doit l'amener à l'autel. Parce qu'il est chaud, le sang. D'accord? Il est très chaud. Il est chaud, c'est le sang qui vient de sortir. Donc on doit prendre ce sang-là.
Il est chaud.
D'accord? On doit prendre ce sang et on doit le verser sur un coin particulier de l'autel. Ça dépend de la sacrifice. Donc c'est évident que c'est salissant.
Ouais.
Quand la vitesse à laquelle ils allaient, en plus quand tu balances, excusez-moi du terme, quand tu jettes du sang, c'est sûr qu'il va se salir. Les kétorettes. D'accord? Les kétorettes, il y avait un mélange. D'accord? Il y avait de la cendre. Il y a un mélange qu'on devait faire, on devait remuer de la cendre. Donc évidemment, c'est sûr qu'on se salissait.
La poussière ambiante.
Et, d'accord? Pour arriver à la question de M. Bismuth, c'est évident que sans devoir passer par le fait qu'on va prendre cette cendre, on va la mettre en dehors du Mishkan, c'est sûr que le Kohen qui venait le matin, lorsqu'il essayait donc de balayer les cendres qui étaient sur le Mishkan, sur l'autel, c'est sûr qu'il se salissait.
Il n'y a pas de tablier qui était devant?
Non, justement. Et c'est ça la question que Rachid, se pose. Rachid te dit, je sais que tu m'as donné une première réponse. Tu m'as donné une première réponse dans laquelle tu m'as dit que pourquoi on change de vêtements? C'est parce que c'est derrière Eretz. c'est des rechérettes, ça se fait, c'est des bonnes manières. Ça ne se fait pas, qu'est-ce que Rachid a dit, pour pas se salir. Mais Rachid sait très bien que même un enfant qui va lire ça, il va dire, mais attends, se salir. Quoi, c'est seulement maintenant que tu penses se salir? C'est quand je prends de la cendre pour la mettre en dehors du camp? C'est seulement maintenant que tu penses se salir? Mais attends, on a eu la shrita, on a réceptionné le sang, on a balayé les cendres. Tu crois que ça salit pas, ça?
On est le matin.
D'accord? Très bien, alors, on a balayé les cendres. C'est déjà salissant. D'accord? Bon, les odeurs, n'en parlons pas. Encore, ça, à la limite, on n'en parle pas.
Mais attends, dans le matin, il n'y avait pas un phénomène d'eau.
Donc c'est pour ça, hein, c'est pour ça que... Mais ça change pas, la cendre. Non, non, l'eau, elle montait pas jusqu'à l'hôtel. Donc c'est pour... Rachid, c'est pour... Pourquoi Rachid a besoin d'amener le machal, l'exemple qu'il a donné, avec le maître d'hôtel, comme vous avez dit, le maître d'hôtel et le cuisinier. Pourquoi Rachid a besoin de donner cet exemple-là? Bon, c'est un esclave, on parle d'un esclave.
Oui.
Hein. Bon. Pourquoi Rachid a besoin de donner cet exemple-là? Parce que Rachid, il a la même question qu'on vient de se poser. Il dit, attends, pourquoi tu me dis qu'on change de vêtements? On change de vêtements, on passe salir. Mais je comprends pas, mais tu crois qu'il a balayé les cendres, il s'est pas sali? C'est évident qu'il s'est sali. Et tu crois que les Kohanim... On n'a jamais vu que les Kohanim qui faisaient la shrita, hein, après la shrita, ils devaient se changer. On n'a jamais vu que les Kohanim qui versaient le sang sur l'autel, ils devaient se changer.
Peut-être que ça allait.
Alors
toi,
comment ça se fait?
Peut-être ça allait.
Et
toi,
c'est pour ça, pas du tout. C'est pour ça que Rachid a une autre réponse plus intéressante. Excusez-moi. Hein. Rachid, il a une autre réponse. Il répond avec un machal. Il répond avec un exemple. C'est quoi l'exemple qu'il donne Rachid? Je vous dis à l'oral. Rachid donne un exemple. Qu'est-ce que Rachid a amené comme exemple? Il dit dans les mots, encore une fois, c'est extraordinaire. Il dit Begadim chez Bichel, Bahem, Dera, les rabots. Les vêtements avec lesquels on a préparé, on a cuit une marmite pour son maître. Alimzog, Bahen, Kos, les rabots. On n'utilisera pas ces mêmes vêtements pour servir un verre à son maître. Ça veut dire quoi? Rachid va nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Lorsque l'esclave va servir son maître, donc il va faire la table, il va être le chamash qui va servir à table, et qui va se salir en train de servir son maître. Imaginez-vous, il a une carafe de vin, il est en train de faire par exemple, imaginez-vous, il a une carafe de vin, il va servir son maître, ou imaginez-vous encore, il va nettoyer la table, son maître est là, il va nettoyer quelque chose. Et qui se salit? Est-ce que le maître va prendre ça mal, que son esclave se salit? J'ai un exemple, voilà. Vous prenez par exemple, vous m'avez parlé du maître d'hôtel.
Ouais.
Imaginez-vous, le maître d'hôtel, il est en train de vous servir. Et dans le cadre du service, d'accord? Par exemple, quand il va nettoyer les tables, bah, il va un petit peu se salir. Il va prendre un peu de poussière.
Non, normalement, le maître d'hôtel, il nettoie
rien. Seconde.
Tout, hein.
Bon, alors, c'est pour ça que j'ai pas parlé d'un
maître
d'hôtel.
Servir.
Est-ce que, écoutez bien, regardez comment Rachid répond à cette question qu'on vient de poser en quelques mots. D'accord? Est-ce que ça dérange le maître? Non, ça ne dérange pas le maître. Pourquoi ça ne dérange pas le maître? Parce que ça fait partie du travail, du service, d'accord? Ça fait partie du service que l'esclave fait devant le maître. Qu'est-ce que Rachid nous apprend? Rachid nous apprend que lorsque l'esclave va se salir devant le maître, si ça fait partie du service, ça ne dérange pas le maître. Qu'est-ce qui dérange le maître? C'est si l'esclave a fait les choses en cuisine et qu'il vient comme ça tout seul de la cuisine. Je répète, c'est extraordinaire comment Rachid nous répond à ça en deux mots. Rachid nous explique la chose suivante. T'as un Kohen qui va se salir quand il va faire la shrita, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Parce qu'il est en service. Et si c'est le maître qui lui a dit fais la shrita et qu'il se salit, ça ne dérange pas le maître. À quel moment tu dois te changer? Il doit se changer lorsqu'il va prendre les cendres et qu'il va les amener en dehors du camp. Et qu'il va se salir là-bas. Là, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit, pour ce que tu vas te salir là-bas, on n'est pas responsable. Qu'est-ce que Rachid veut nous dire par ici? D'accord. Ce que Rachid veut nous dire par ici, c'est qu'il faut bien faire la différence quand on se salit en dehors du Beth Amikdash et dans le Beth Amikdash. Quand je donne une tâche à quelqu'un, je lui dis fais-moi ça, et qu'il te fait la tâche, et qu'il se salit devant moi. Quand je donne à quelqu'un, je lui dis fais-moi ci, il me le fait, il se salit devant moi, parce que dans la tâche, il faut se salir, on va faire la shrita. Est-ce que ça me dérange? Rachid dit non, ça ne me dérange pas. Non seulement ça ne me dérange pas, il ne devra pas aller s'échanger. À quel moment ça me dérange? C'est quand je l'envoie faire une course, peu importe où il est parti, ce n'est pas mes affaires. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai pas vu faire. Il va faire la course, il me revient tout ça, je lui dis, va te changer. C'est ce que Rachid dit, c'est du dérèglement. Alors, la question que les Mefarchim posent sur ça, ils disent, dans ce cas-là, puisqu'apparemment, on voit ici que le fait de prélever la cendre et de l'amener en dehors du camp, bon, apparemment, si on mettait deux autres vêtements, ça veut dire que c'est quelque chose de salissant et quelque chose que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, apparemment n'est pas responsable. C'est-à-dire, tu fais la shrita, tu t'es sali, ça ne me dérange pas. Mais tu vas amener la cendre en dehors du camp, tu vas te salir là-bas, ça me dérange. Alors, dans ce cas-là, les Rami posent la question. Ils disent, comment ça se fait qu'on demande au même Cohen, vous allez voir, c'est extraordinaire le message, comment ça se fait qu'on demande au même Cohen de faire les deux travaux? On sait très bien que, parmi les Kohanim, statistiquement, il y avait des Kohanim qui étaient Baal Moum. C'est quoi un Baal Moum, M. Bismuth?
Un qui n'est pas apte à officier.
Un Kohen qui est infirme, d'accord, qui a un certain défaut, et que comme il est infirme, à Kadosh Baruch Hu, il demande que les personnes qui le servent soient au top. C'est comme ça. Kadosh Baruch Hu, il dit que Bishlemout, d'accord, donc, comme ça qu'un Kadosh Baruch Hu, il demande. Par respect pour un Kadosh Baruch Hu, il demande à ce que tous ceux qui servent dans le Mishkan, ou dans le Beth Amikdash, d'accord, ne soient pas infirmes. Bon. Il y avait des Kohanim qui étaient infirmes. Ces Kohanim qui étaient infirmes, Chas v'Shalom, c'est pas que Dieu préserve, on les met de côté, on dit, bon, vous êtes infirme, vous êtes inapte, alors dehors.
Des petits boulots. D'accord.
On leur donnait d'autres boulots. Par exemple, quelques boulots on leur donnait. Par exemple, on leur demandait d'aller couper le bois, d'aller réceptionner le bois. Ils étaient responsables des huiles. Ils étaient responsables de beaucoup de choses, d'accord, mais qui n'étaient pas... qui nécessitaient pas de rentrer dans l'enceinte du Kodesh. Très bien. Alors la question que le Mefarchim pose, il dit, dans ce cas-là, hein, puisqu'apparemment tu me dis que c'est un boulot qui est salissant. Apparemment c'est un boulot qui est salissant. Ça veut dire que si c'est salissant à l'intérieur du Kodesh, ça ne nous dérange pas. Mais si on se salit à l'extérieur du Kodesh, ça te dérange. Alors dans ce cas-là, j'ai la solution. Pourquoi on n'a pas découpé le boulot en deux? Pourquoi on n'a pas dit que la partie salissante, mais qui est dans l'enceinte du Kodesh, sera fait par un Kohen normal. D'accord. Donc un Kohen normal, un Kohen qui est parfait.
Un Paul.
Et la deuxième partie du travail, d'accord. La deuxième partie du travail, ça veut dire prendre donc ces cendres-là et les mettre dehors. On aurait pu demander à un Kohen Baal Moum de le faire. Pourquoi la Torah n'a pas découpé ça en deux? Et vous voyez bien que quand on lit la paracha, on voit que la Torah nous dit que le même Kohen qui a ramassé les cendres, et qu'apparemment il s'est sali, et que cette salissure ne nous dérange pas, on dit c'est toi qui va aller maintenant, qui va prendre ces cendres et qui va les mettre dehors.
Les frais de laverie.
Et ça c'est extraordinaire ce qu'on apprend comme message. Qu'est-ce que la Torah nous apprend comme message? Un message dans Avodat Hashem. Qu'est-ce que la Torah nous apprend comme message dans Avodat Hashem? La Torah nous apprend que... un juif, il doit savoir qu'il sert à Kadosh Baruch Hu pas seulement.
Cacher les Pessah.
Certainement chez Akol.
Grain de sésame.
Fécule de pomme de terre. Quelle horreur. Battez-vous.
Alors.
Ça permet de caler un peu.
Il y avait des maisonnottes.
Moi, je trouve que ça donne faim, ces gâteaux.
Oui, c'est du sucre.
C'est quand on commence à manger, ça ouvre l'appétit et il n'y a rien à manger. Alors, donc qu'est-ce qu'on disait? On disait que... C'est quoi l'enseignement qu'on a tiré d'ici? C'est que un juif, il est tenté à servir à Kadosh Baruch Hu. Il dit, moi, tu me demandes de faire une mitzvah, je suis intéressé. Mais tu me demandes de préparer une mitzvah, de faire ce qu'il y a autour de la mitzvah, ça, je ne suis pas intéressé. Et là, j'ai tout de suite le premier exemple qui me vient en tête, c'est Pessah. Tu dis aux gens, viens, on va s'asseoir à Pessah, il n'y aura pas de tramet, il n'y aura que de la matzah, et la matzah, ça représente l'humilité, etc. Pas au Hachem, tout le monde vient. À la table du CDR, tout le monde est assis. Tout le monde va manger, tout le monde va profiter. D'accord. Mais après, tu vas leur demander de venir de préparer. Ou tu vas leur demander de débarrasser. D'accord. Ah, ils vont te dire, ils vont tous trouver une excuse pour partir. Comment ça se fait? Parce que dans la tête des gens, on est intéressé par la mitzvah. Mais ce qui est autour de la mitzvah, c'est-à-dire la préparation et le débarrassage de la mitzvah, on n'en est pas intéressé. Et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu comme message ici? Il te dit bien que la deuxième partie, quand on ramassait les cendres, qui était a priori une partie salissante, très salissante, plus salissante que les autres, qui n'était même pas dans le Beth Amikdash, donc on aurait pu demander à un autre Kohen de le faire. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit non, on ne va pas te donner que la belle partie de la mitzvah. Tu vas prendre aussi la galère de la mitzvah. C'est quoi la galère de la mitzvah? Tu vas sortir du Beth Amikdash, tu vas te salir là-bas, et tu devras changer tes vêtements. La Gemara raconte une histoire sur Rabbi Chiya. Elle dit que Rabbi Chiya était quelqu'un qui était donc un grand enseignant. Il s'était mis pour mission, c'était lui l'innovateur des écoles juives. D'accord. Il s'était mis pour mission, il allait dans les villages dans lesquels il n'y avait pas d'école. Il a formé c'est innovateur. Il a formé, parce qu'à l'époque, c'est un père qui enseignait son fils, c'est ceux qui avaient les moyens, ils payaient un professeur. Mais ceux qui n'avaient pas les moyens, ben, c'était comme ça. Et lui, Rabbi Chiya, il est parti dans des villages où la majorité des gens étaient ignorants. Il a formé des élèves. Donc il a pris des enfants, il a formé des élèves. Et ces élèves-là, par la suite, sont devenus eux-mêmes des maîtres. Et la Gemara, là-bas, la Gemara, elle raconte, la Gemara Baba Metzia, elle raconte comment Rabbi Chiya faisait. Il dit que Rabbi Chiya ne s'est pas suffi simplement de faire son projet, c'est-à-dire de venir dans la ville. Il dit, bon, voilà, j'ai un projet, alors maintenant il faut qu'on m'amène des livres, etc. Une fois qu'on a les livres et qu'on m'amène les élèves, moi je m'occupe. La Gemara là-bas raconte, elle dit que Rabbi Chiya a fait de ses propres mains toutes les préparations pour écrire un Sefer Torah. Ça veut dire quoi? Écoutez bien, ça va très très loin. Il a planté du lin. Quel rapport entre le lin et le Sefer Torah? Il a planté du lin. Donc il a attendu que ça pousse. Du lin qui a poussé, il a préparé des filets. Grâce au filet, il a chassé des cerfs. D'accord ? Il a donné à manger la viande de ces cerfs, il a donné à manger à des orphelins. Et la peau, donc le cuir de ces cerfs, c'est grâce, il a préparé un parchemin. Donc c'est cachère, bien sûr. Il a préparé un parchemin. Et sur ce parchemin, il a préparé, donc sur ce parchemin, enfin après ensuite il a préparé de l'encre, comme je vous ai expliqué ce matin. C'est pas facile de préparer de l'encre. Et sur cette encre, sur ce parchemin, il a écrit lui-même toute la Torah, et c'est seulement après qu'il s'est mis à enseigner.
Comment il s'appelle ?
Rabbi Chiya.
Magnifique, hein, c'est ça.
Alors nous, quand on voit cette histoire, on peut se poser la question, on peut se dire, mais attends, Rabbi Chiya, c'est un grand maître. Il n'a pas le temps pour ça.
Ah, oui.
Et on est sûr que s'il avait demandé à un de ses élèves de faire le boulot à sa place, il l'aurait fait sans problème. Il dit, mais Rabbi, et je suis sûr, quand je me mets la situation, je suis sûr que ses élèves disaient, mais Rabbi, vous dérangez pas. Continuez à étudier, on s'en occupe. Perdez pas votre temps avec ça. Et qu'est-ce que dit la Gemara là-bas ? Elle dit que non. Rabbi Chiya, il a dit, je veux participer à toutes les étapes de la mitzvah. Je ne veux pas seulement récolter les honneurs, être celui qui va enseigner à la fin. Je veux faire partie de toutes les étapes de la mitzvah. La Gemara là-bas, elle dit que les Chachamim, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, Kama gdoli ma sechia. Ils ont dit combien sont grandes les actions de Chiya. Ils ont été capables d'apprécier les actions de Rabbi Chiya. C'est exactement le message que Rachid nous enseigne ici. Il faut savoir que quand on fait une mitzvah, il ne faut pas seulement penser à la mitzvah. Parce que, encore une fois, je vous ai dit que tous les Kohanim se battaient pour être ceux qui vont balayer la cendre. Mais par contre, on imagine qu'ils ne se battaient pas pour prendre cette cendre-là et l'amener dehors. Parce que bon, personne ne va te voir, et bon, c'était juste, tu la mets dehors dans un endroit où soit on l'enterrait, soit on la posait dans un endroit cachère. Ça, ça ne les intéressait pas. Qu'est-ce que tu dis à Kadosh Baruch Hu ? De la même manière que tu étais plein d'entrain, tu étais en train de courir pour faire la partie jolie de la mitzvah, il y a une partie qui est moins jolie, et qui à la limite n'est même pas une mitzvah. C'est ça, c'est même pas une mitzvah. Ça veut dire la mitzvah, c'était de balayer la cendre, et de la mettre à côté du Mishbéach. Mais après, prendre cette cendre-là et la mettre en dehors, c'est un boulot d'homme de service. C'était pas une mitzvah. C'était autour de la mitzvah. C'était pas une mitzvah. Et pourtant, qu'est-ce que nous dit la Torah ? Non seulement tu vas le faire, mais tu vas mettre les vêtements d'homme de ménage pour le faire. Eh oui. Pour pas que tu te salisses. Et ça, c'est un enseignement. Hein. C'est un enseignement pour nous, donc bien sûr, pour être capable d'apprécier à mieux le travail de nos femmes. D'accord ? Pour Pessah. Qu'elles, depuis très longtemps déjà, depuis avant Pourim déjà, elles sont en train de penser comment elles vont faire le ménage de Pessah. Qu'on voit que Pessah, c'est pas simplement être assis à table, comme des hommes libres. Pessah, c'est également la préparation qu'il y a autour. Mais il n'y a pas seulement ça, on peut avoir aussi un enseignement pour les hommes. Mis à part le fait que je suis sûr que les hommes ont aidé leurs femmes au ménage de Pessah, c'est évident. D'accord ? Ça fait les courses.
Ouais, à Longchamp,
Je suis un autre exemple. D'accord ? Un autre exemple pour nous montrer le fait que des fois, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la mitzvah, mais il faut donner de l'importance aussi à ce qu'il y a autour de la mitzvah. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on dit à quelqu'un, on lui dit, tu sais, aujourd'hui, on s'approche de Mashiach, et si on veut que Mashiach vienne plus vite, il faut qu'on ramène un maximum de juifs à la Teshuvah. Alors il y a des gens qui vont vous dire, écoute, il n'y a pas de problème. Si mon voisin, un jour, il sonne chez moi à la porte, et commence à lier des liens d'amitié, alors il n'y a pas de problème, avec plaisir, je l'inviterai Shabbat, je lui montrerai ce que c'est la synagogue, je lui montrerai ce que c'est une table de Shabbat, avec plaisir, il n'y a pas de problème. Mais ne me demande pas d'aller faire le sale boulot, d'aller sonner à la porte, d'accord, d'aller sonner à la porte de 10 voisins pour peut-être récupérer un voisin. C'est un sale boulot, je peux vous dire. Parce que vous avez des gens qui vous claquent la porte. Ils vous envoient le chien. c'est un sale boulot. Ouais. Tu dis, ça, c'est pas moi qui vais le faire. On va envoyer des gens pour ça. Je vais envoyer des jeunes, je vais envoyer des gens qui vont le faire à ma place. Ils vont sonner, et une fois qu'ils m'ont fait le sale boulot, moi je viens par derrière, je sonne à la porte, comme par hasard, je dis voilà, j'ai appris que vous êtes intéressé, venez chez moi, à la table de Shabbat, etc. Qu'est-ce qu'on te dit? Ça marche pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? À Kadosh Baruch Hu dit que la mitzvah, c'est pas simplement la belle partie de la mitzvah. C'est toute la préparation de la mitzvah. Toute la préparation de la mitzvah, tout le côté, je vais parler avec quelqu'un. Je vais lui parler des fois pendant des heures. Et c'est possible que pendant des heures, je vais pas réussir à l'influencer. Et pour moi, je me dis, j'ai du temps perdu. Et c'est possible que j'ai du temps perdu. Bien qu'en vérité, j'ai jamais du temps perdu.
D'accord.
Bien qu'en vérité, j'ai jamais du temps perdu. Parce que c'est sûr que ça a dû le toucher. Mais bon, quand je le vois extérieurement, c'est du temps perdu. Et quand j'ai du temps perdu comme ça, je me dis, mais j'ai perdu mon temps. J'aurais pu prendre ce temps-là, être là en train d'étudier la Torah. Est-ce que j'aurais pas été plus productif en étudiant la Torah?
Dépité.
C'est là ce qui nous apprend Rabbi Chiya et c'est là ce qui nous apprend Rachim. Qui nous dit que ce Cohen qui était responsable, qui avait gagné donc le tirage au sort, pour nettoyer, pour balayer, pour débarrasser le Mishbéach, on lui dit c'est toi qui dois commencer la mitzvah, c'est toi qui dois finir la mitzvah. Tu dois faire même les parties de la mitzvah qui sont moins jolies. Ça veut dire que nous, on doit faire tout notre possible pour amener un maximum de juifs à la Torah. Et même si on va essuyer des plâtres, c'est pas grave. Je peux vous dire qu'on en essuie. Je peux vous dire, parce que quand on sonne les portes pour parler aux gens, pour leur parler de Pourim, de Pessah, etc., je peux vous dire que vous avez des gens qui vous claquent la porte au nez. Et c'est déjà pas mal s'ils vous ont ouvert la porte.
C'est du vécu. Des fois sur les doigts.
D'accord.
C'est du vécu.
C'est déjà pas mal. Il y a plusieurs étapes. Il y a d'abord, est-ce qu'il va répondre? Vous entendez? Il regarde dans l'œil, comment on appelle ça, l'œil de... Il regarde dans l'œil ton, il regarde. Et des fois, comme ça, il y a un silence pendant 20 secondes. Et tu sais pas quoi faire, parce que tu peux pas bouger.
Qu'est-ce qu'on fait?
Il y a un silence.
Ne fais aucun bruit, chérie, on va partir.
Dring, dring.
Après, t'as celui qui va répondre.
Qui va faire
un dialogue. Qui va faire tout un dialogue derrière la porte. Ras l'échalem, il ouvre pas la porte. D'accord? Après, c'est celui qui ouvre la porte juste pour te voir. Il va te regarder comme ça 2 secondes, il y a un blanc, et après il claque la porte. C'est celui qui va t'insulter. Il va dire, vous les rabbins, vous êtes là, vous prenez de l'argent, etc. Et si tu vas réussir, avec un sourire peut-être, qu'il va te laisser rentrer, juste pour lui parler, c'est pas encore lui, tu vas réussir.
À l'intérieur.
T'es déjà très content.
On va se venger.
Et ça, c'est le message. Que kol ha'avodot hachuvot, que tous les travaux, toutes les parties du travail sont importantes.
Oui.
Imaginez-vous Rabbi Chiya en train de planter du lin. J'ai l'impression qu'il perd son temps. Il aurait pu donner à quelqu'un d'autre. Eh ben non, il perd pas son temps. Toutes les parties du travail sont importantes. Le ménage de Pessah est important. Bien que ce n'est pas une mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de faire le ménage de Pessah. La mitzvah, c'est qu'à Pessah, il n'y a pas de ramettes. Il n'y a pas de mitzvah de faire le ménage de Pessah.
Les accessoires font partie.
D'accord. Non, justement, c'est un accessoire à la mitzvah.
Oui.
Qu'est-ce que nous apprend la Torah? J'aurais lu Rachid. Begadim chez Bichel Ben Dera les rabots, Alimzog Ben Kos les rabots. Les vêtements avec lesquels on a préparé une marmite pour son maître, c'est pas les mêmes vêtements avec lesquels tu vas servir à ton maître. Ça veut dire que c'est toi qui dois faire les deux. C'est toi qui dois être le maître d'hôtel, c'est toi qui dois être le serveur, le cuisinier. D'accord? Ah, tu me dis, il y a un boulot qui m'intéresse pas. Rachid, c'est évident que tu vas faire les deux boulots. Et c'est évident que pour faire les deux boulots, automatiquement, tu vas devoir changer de vêtements, tu vas devoir prendre des vêtements d'homme de ménage. Prenez les vêtements d'homme de ménage. Certainement, c'était des vêtements qui étaient faits pour ça, qui étaient déjà sales. Qu'est-ce que te dit Rashi? La mitzvah, c'est pas seulement la belle partie de la mitzvah, et tout ce qui est autour de la mitzvah, on a expliqué par rapport au ménage de Pessah, on a expliqué ça aussi autour de l'enseignement quand on va ramener un juif à la Torah, que c'est pas simplement la belle partie, tu l'as invité Shabbat à table, c'est tout ce qu'il y a autour. Et là, Bezrat Hashem, quand on va faire tout ce qui est autour de la mitzvah, avec, bien sûr, la mitzvah, donc l'avant-mitzvah, l'après-mitzvah, c'est sûr que Bezrat Hashem, grâce à ça, on pourra mériter à la venue de Mashiach très prochainement.
Oh, mais...